Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. C'est parti. Et ouais, on est live avec Rémi Camus. Salut Rémi, comment vas-tu?
Salut Barthélémy, eh bien ça va très bien et je suis vraiment content d'être ce soir avec toi au micro.
Et ben moi également, ça fait un petit moment qu'on s'était contacté et my bad, c'était un moment où j'avais pas mal de difficultés à jongler entre ma casquette de papa, d'entrepreneur et de podcasteur. Et du coup on a remis ça, tu m'avais relancé et je suis vraiment hyper content parce que je pense franchement que t'es l'invité sur lequel j'ai passé le plus de temps à préparer, tu vois, et à écouter. Non, mais c'était vraiment un plaisir parce que voilà, t'as créé pas mal de contenu, t'es déjà fait interviewer, et puis aussi parce que t'es assez actif sur les réseaux sociaux et que ce que tu fais, moi, ça me fascine. Comment est-ce que tu te présentes d'ailleurs là aujourd'hui à l'heure actuelle, si on devait te présenter en quelques mots aux auditeurs?
Ah, c'est pas facile hein, comme question, parce que la plupart des gens disent aventurier explorateur. Alors oui, ça colle à ce que je fais actuellement, mais je suis ni plus ni moins comme tout le monde. C'est exactement ton podcast extraterrien, c'est qu'on est des gens comme tout le monde, mais avec juste des objectifs, et je me suis mis des bons coups de pied aux fesses pour atteindre mes objectifs. Mais voilà, je dis aventurier explorateur, ça permet d'avoir une casquette sur la thématique en tout cas.
Ouais, bien sûr. Et puis les gens sont, on a tous besoin hein, de mettre un peu les gens dans des cases pour faciliter la compréhension et créer des raccourcis. Hein, tu vois, c'est normal, c'est humain et faut pas en vouloir à ce niveau-là. Bon, écoute, on reparlera de toutes tes expéditions. On reparlera aujourd'hui aussi de ton activité, parce que tu fais des stages de survie et ça m'intéresse vraiment de savoir et d'avoir peut-être pourquoi pas quelques petits tips. Tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre
et
travailler un peu par nous-mêmes. Comme je te le disais, je suis aussi hyper intéressé de ta casquette d'entrepreneur, parce qu'entre ta première expédition et maintenant, c'est une entreprise qui se constitue avec des objectifs différents. T'as parlé de se fixer des objectifs et ça j'adore. Mais comme tu le sais, il y a une tradition sur ce podcast, c'est de commencer un peu par l'enfance et de savoir un peu qui tu étais quand tu étais plus jeune.
Oulala.
La question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Alors j'étais un enfant très turbulent. Alors mais vraiment très turbulent, et je pense que la chose que je me souviens le plus en sport, c'était mes périodes de foot lorsque je jouais dans le club qui s'appelait le Subdré dans le village dans lequel j'ai grandi. Et le souvenir que j'en ai, ben, c'est un très bon ami à moi, Nicolas Migraine, avec qui on a grandi ensemble quand j'étais gamin, qui m'en a reparlé. Et un jour, le coach était en plein milieu du stade et il n'arrêtait pas de gueuler. Il faut aller ici, Rémi, bouge-toi le cul, tout ça. Je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans. Et j'ai mis les deux coins comme ça, j'ai traversé tout le truc, j'étais le voir, et il s'appelait Monsieur Collier. Et je l'ai regardé, et j'ai dit, Collier, t'es qu'un con. Et je me suis barré. Et là, il avait 55, 60 ans, tu vois. Et j'ai balancé ça comme ça. Et mon pote Nico, qui était à côté de moi, il était sur lui, qui a fait, oh, mais non, t'as pas dit ça. Et l'entraîneur est parti voir mon père après pour lui dire, je crois que ton fils a un problème, il faut qu'il arrête le foot. Et je crois que c'est le truc qui m'a le plus marqué, tu vois, dans l'histoire du sport. J'étais pas quelqu'un qui aimait courir derrière le ballon, j'étais très, très turbulent, j'aimais beaucoup les sports individuels. J'adorais ça, tu vois, d'être seul, confronté à moi-même. Et le foot, c'était parce que c'était la proximité, quoi. T'as le club qui était à côté, à 3 kilomètres de la maison, tous les gamins jouent au foot. Bon, bah, tout le monde fout au foot. Ah, ok, super. Et je me rappellerai toujours de cette action, ouais, d'avoir engueulé le coach.
Quand tu dis turbulence, c'est aussi un peu rebelle et aussi contre l'autorité, non?
Non, il y avait pas que ça, mais quand je dis turbulence, c'est que tu vois, quand j'étais gamin, j'étais attaché avec un harnais quand on sortait, quand mes parents sortaient faire les courses, j'avais un harnais sur moi. Ah, tu rigoles, mais franchement, ils rigolaient pas de la même façon, tu vois. Donc j'avais un harnais et ils m'attachaient au caddie des fois parce que sinon je me barrais, et pour X raison, s'ils lâchaient la laisse, t'avais l'impression d'avoir un clébard, tu vois. Quand ils lâchaient la laisse, et ben je me barrais dans les rayons et je rentrais dans les rayons des habits, je prenais des bouquins et je lisais des livres. Tant que j'avais pas fini mes livres, bah, ils pouvaient toujours appeler le petit Rémi, t'appeler à l'accueil. Je n'avais strictement rien à faire, tu vois. Je restais à lire mes bouquins et voilà. Donc, ça a été, ouais, très difficile pour mes parents quand j'étais gamin, ouais.
J'imagine que pour toi aussi, ça devait être dur de rester vissé les fesses sur un siège pendant 7 heures d'affilée à l'école. Moi, c'était un supplice. Franchement, j'avais besoin de sauter, de gambader. Dès qu'il y avait la pause, j'étais le premier dehors, le dernier à rentrer dans la classe. Et c'était dur de canaliser. En tout cas, quand je t'entends, j'imagine que ça devait être dur de canaliser ton énergie pour les cours, quoi.
J'étais pas un très bon élève, j'ai jamais eu de très bonnes notes, tu vois, je suis toujours passé pour un ric et rac, tu vois, et effectivement, quand ça sonnait, on avait, tu sais, le sac sur la table, avec la main sur le sac, une main sur la table, et dès que la sonnerie partait, et on courait, on passait la porte et on se barrait, parce que, voilà, et quand c'était l'heure de repartir en classe, notamment sur la pause du midi, on se débrouillait toujours, nous, pour aller à la cantine vers 13h45, 1h, pour avoir le rab, parce qu'on adorait manger, donc on prenait le dernier moment, et on sortait de la cantine vers, toi, 13h30, et à chaque fois, quand on arrivait en cours, on était en retard, et les profs, mais vous étiez où? Ben, on était à la cantine. Non, mais la cantine avait fait, ah bah ouais, mais le temps qu'on digère, tout ça. Et j'étais pas forcément très bon élève à l'école. J'aimais beaucoup plus être dehors plutôt qu'à l'intérieur.
Ouais, bah j'imagine. Pour le coup, c'est quelque chose qu'on partage pas mal, j'ai l'impression. Et t'as fait un peu d'autres sports, tu vois, ou je sais pas, tu disais que tu lisais des livres, je sais pas, tu rêvais un peu d'aventure, tu rêvais de sport. Est-ce que c'était un truc qui te donnait envie ou?
Pas forcément de sport. J'ai fait du judo, mais toi, j'ai jamais fait de sport dans la durée. J'ai fait 1 ou 2 ans de judo. J'ai fait un peu du tennis de table. J'ai fait un petit peu d'escalade. Mais tu vois, il y avait rien de vraiment transcendant. Et moi, je passais mes week-ends quand j'avais 13, 14 ans, même un petit peu plus jeune, on passait nos week-ends dans la forêt, tout le temps dans la forêt. On construisait des cabanes de plus en plus grosses. On faisait des feux. On brûlait tout ce qu'on pouvait brûler. L'hiver, on se retrouvait en short quand on avait 15 ans, 14, 15 ans avec les copains en short en plein hiver en train de brûler. Alors je sais que c'est complètement con. Je m'en excuse auprès de toute ta communauté et auprès de toute ma communauté. Je brûlais des pneus de voiture pour avoir chaud l'hiver en short, pieds nus, torse nu. On faisait de la moto de cross, enfin voilà, mais il y avait pas de, j'avais pas de sport ou une discipline à me dire je vais dans un club, etc. J'avais pas ça, j'avais pas ce truc.
Ouais, ok. Ouais, mais déjà un petit peu quand même à vadrouiller et à faire joujou avec la nature quand même. J'ai
Ben,
l'impression.
en tout cas, oui, j'avais ce truc-là et j'adorais, tu vois, passer du temps dans les arbres, monter dans les arbres. À chaque fois qu'il fallait monter et construire une cabane dans les arbres, j'étais le premier à prendre toutes les branches, toutes les poutres et à grimper avec une main, avec un pied, et à monter toutes les troncs d'arbres juste posés sur l'épaule pour les emmener à 5, 6 mètres du sol parce que je trouvais ça génial de pouvoir dominer, tu vois, la forêt, te dire, je suis en haut, tu vois, et c'est moi qui ai monté la plateforme et j'adorais ça. J'adorais me retrouver perdu au milieu de la forêt.
Ok. Et bon, tu l'as déjà rencontré pas mal de fois cette histoire, mais bon, je vais avoir un petit plaisir égoïste qui est de me le faire raconter encore une fois. Mais comment est-ce que tu découvres un peu le milieu de l'exploration? Comment est-ce que tu tombes dedans?
Alors, tomber dedans, c'est vraiment le cas, parce que quand j'étais en Angleterre, quand je vivais en Angleterre, j'avais une autre vie, une vie de beaucoup d'addictions. Je consommais toutes sortes de produits possibles, imaginables sur cette planète. Et tomber dedans, c'est vraiment le cas. Je suis tombé par terre en plein service, un peu trop chargé de produits. Et ça a été un premier truc qui m'a fait prendre conscience de, il faut faire autre chose, il faut vivre autre chose. Donc, je suis parti après, commencé à faire des tours du monde, la Nouvelle-Zélande, etc. Je suis parti en Pologne et j'avais besoin de me découvrir et de voyager autrement. Et puis la restauration a toujours été présente dans ma vie parce que je suis un ancien maître d'hôtel. J'ai fait uniquement un bac technologique en restauration. Et je me suis retrouvé donc à côté de Genève, dans une petite ville à Thoiry, où donc j'ai réussi à décrocher le poste de maître d'hôtel, ce que je voulais vraiment au moins clôturer, conclure la partie restauration, de me dire voilà, je finirai au moins maître d'hôtel, tu vois, l'honneur est sauf, tu ne seras pas juste serveur, Rémi, allez, vas-y, donne-toi les moyens. Et voilà, un matin d'hiver, je suis parti en Bretagne parce que ma mère m'en avait parlé pour passer de belles vacances avec elle. Et on s'est retrouvé dans un village complètement paumé à 2 heures de route de la mer où il n'y avait rien du tout. Et je l'ai questionné donc sur le programme de notre belle semaine de vacances. Et elle m'a dit, demain, on va faire une belle brocante. Et je fais, mais en tant qu'exposant, ou elle fait, non, 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 on va aller faire la brocante. Je fais, ah, merde, ça commence bien. Je déteste ça, c'est le
T'avais
truc.
quel âge à ce moment-là?
J'avais 25 ans.
Ok,
25 ans. Et j'ai dit, mais non, non, on fait pas de brocante. Enfin, moi, j'aime bien aller au bar, tu vois, boire des bières, tu vois, mais pas faire des brocantes, à regarder ce que les gens, enfin, ça m'intéresse pas du tout. Et je me suis retrouvé donc sur cette brocante où il y avait plus de 700 exposants. C'était énormissime. Et donc, forcément, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé ma mère glaner, essayer de trouver des trucs. Et il y avait un bar dans un coin. Je suis parti au bar boire des bières. Et j'ai descendu 1 ou 2 demi. Et puis, j'ai dit, bon, ça serait quand même bien d'aller la retrouver. Et en cherchant un peu partout, vu que ma maman, elle est assez grande, donc je regardais, tu vois, la tête haute, où est-ce qu'elle est fourrée. Et en cherchant, ben, en même temps, je regardais à droite et à gauche ce qui pouvait se vendre. Et il y a une femme qui vendait, voilà, toute sa collection de livres, de toutes sortes. Et j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait d'intéressant. Et je suis tombé sur un livre d'un franco-marocain, donc Jamel Bali, Au cœur des Amériques. Et j'ai pris le bouquin, je l'ai retourné, j'ai lu vite fait le synopsis que c'était, etc. Donc, il avait traversé toute l'Amérique d'Alaska à Tierra del Fuego, 24 000 kilomètres en courant, en 1 an et demi. Et j'ai trouvé ça juste assez dingue, quoi. Donc, j'ai marchandé le bouquin pour avoir un truc de 1 € de moins en négociant. J'ai retrouvé c'est ma important. Mère. Et bah, j'étais dans la restauration, tu vois. C'était quand même marchander un peu. Et je suis revenu le soir et j'ai passé la nuit à lire mon bouquin. Et c'est là où, le lendemain, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Non pas me prouver. Enfin, c'était pas que de me prouver à moi-même que j'étais capable d'eux, mais je trouvais que sa démarche, elle allait au-delà de juste de l'aventure pour l'aventure, ou l'aventure pour le dépassement, pour le record. C'était l'aventure pour la rencontre, et c'était ce qui je trouvais passionnant, c'est qu'il allait à la rencontre des gens et discuter avec eux, passer du temps. Et je crois que dans une de ses pages, si je m'en rappelle bien, il expliquait qu'en une journée, il avait vécu les deux opposés, la naissance d'un enfant et la mort d'une personne. Enfin, je trouvais ça passionnant, tu vois. Et c'est ce qui m'a donné envie en une nuit de me dire, putain, mais si lui, il l'a fait, pourquoi est-ce que j'y arriverais pas non plus, tu vois? Je suis pas plus con qu'un autre. J'ai deux bras, deux jambes. Bah, aussi, je peux partir à l'aventure.
Ok. Mais, bon, pour le coup, c'est un vrai. Enfin, dans ce livre, je l'ai pas lu, mais tu vois, ça a l'air d'être hyper intense. Je sais pas, il y a des passages où tu te reconnais un petit peu en cette personne, tu vois, et où tu te dis, tiens, j'ai des points communs. Ou j'imagine ça doit être un peu autobiographique, donc il doit se raconter.
Je l'ai pas relu depuis très longtemps, mais ce que je me rappelle, c'était vraiment cette notion de partage qu'il y avait très souvent dans ce livre. Et c'est ce que moi j'adore faire maintenant, tu vois. Je le fais très régulièrement, je donne beaucoup de conférences, que ce soit dans les écoles ou en entreprise, mais j'adore donner des conférences dans les écoles pour parler aux enfants, aux petits bouts de choux, leur expliquer ce que je fais, pourquoi est-ce que je le fais, l'importance de préserver notre environnement. Et je leur explique, pour pouvoir vous battre contre quelque chose, il faut l'avoir vu, il faut l'avoir vécu. Et quand vous irez au fin fond d'un endroit magnifique et vous verrez la détresse des gens, la misère du monde, ou alors la faune, la flore qui meurt, là, vous allez dire, putain, mais cet endroit, il est juste magnifique, il faut le préserver. Et donc, j'adore le faire, j'adore le partager, et je trouve que c'est ce qu'il y avait, en tout cas, dans son livre, c'était le partage qu'il avait avec la population.
Ouais, et tu voyageais déjà beaucoup à l'époque, tu vois, parce que moi, typiquement, c'est un truc, effectivement, tu vois, quand tu le dis, moi, ça résonne vraiment en moi, c'est une des émotions les plus fortes que j'adore ressentir. C'est effectivement quand tu te retrouves dans une pampa complètement perdue à l'autre bout du monde et que tu tombes sur des gens avec qui tu partages rien, en fait, tu partages juste ton humanité, et t'arrives quand même à échanger avec tes mains, avec tes yeux, en te faisant des gestes, en te montrant des choses, et ces moments-là, en fait, ils sont tellement forts parce que tu te sens humain, en fait, tu te sens le dénominateur humain qu'il peut y avoir entre deux personnes, et du coup, enfin, tu vois, t'avais déjà voyagé pour ressentir cette chose-là, ou c'est uniquement les textes, tu vois, de ce livre-là qui t'ont donné envie de le vivre également?
Non, j'ai commencé à voyager, moi, j'avais 16 ans et demi, 17 ans, avec la restauration, et après j'ai commencé à bouger. Bon, je suis parti en Nouvelle-Zélande, j'avais 21 ans, donc j'ai commencé vraiment à voir les grandes étendues, etc. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'aller à la rencontre des gens, de parler avec les gens et de voir différentes cultures, différentes modes de vie. Et je trouvais ça passionnant, tu vois, de se dire, en fait, on vit différemment, on est tous un peu différents, mais on vit tous sur la même planète, quoi. Et c'est ce qui est magnifique. Et j'ai poussé encore plus le vice quand j'ai fait mes aventures, notamment avec les communautés aborigènes ou en Asie du Sud-Est, où tu te retrouves avec des gens qui parlent pas un mot d'anglais, pas un mot de français, et là t'es là, voilà, oh là, ça va être trop long la soirée, et t'es là avec des morceaux de charbon de bois en train d'essayer de dessiner. Et putain, je suis pas non plus Picasso, tu vois, mais une maison, je sais quand même encore dessiner une maison. Et les mecs, ils te regardaient, ils étaient là, comprends pas. Je fais, tu comprends pas? Putain, mais je l'ai fait en 3D, la maison. Comment ça, tu peux pas comprendre? Je vais pas te faire une porte. Enfin, ouais, à un moment donné, c'est une maison, ça se voit. Et je trouvais ça hallucinant, et de se dire, waouh, ouais, c'est dingue. Et je trouvais ça passionnant, tu vois, parce que même si on avait cette barrière de la langue, eh bien, ils étaient quand même souriants, accueillants, et on rigolait. Et rigoler avec des gens que tu comprends même pas. Le mec, il te sort un truc, il te sort une blague, tu rigoles, et il rigole, et tu dis, on est vraiment trop con parce qu'on se comprend même pas et on rigole. Et je trouvais ça génial, tu vois.
Ouais, mais c'est clair. Mais tu vois, au-delà de ça, une des choses, enfin, que moi qui, tu sais, sur lesquelles je trouve que t'es vachement inspirant, c'est que t'aurais pu t'arrêter à ça, tu vois. T'aurais pu t'arrêter à te dire, bon, bah, je vais prendre mes clics et mes claques, et puis je vais aller dans la savane, et puis je vais rencontrer des gens. Mais que là, non, tu décides Tu vois, alors je sais pas si t'as eu le déclic, je sais pas en une nuit ou en quelques jours, comment ça se fait, mais tu décides de traverser l'Australie du nord au sud, c'est bien ça?
Du sud au nord, de Melbourne.
Du sud au nord, pardon, ouais. Et de le faire en courant et en quasi survie, tu vois. Donc au-delà du plaisir de rencontrer des gens, parce que ça reste un énorme plaisir, une émotion humaine, tu te rajoutes quand même une contrainte ou une difficulté qui est absolument hors norme. Et avec le recul, tu sais un peu d'où ça vient, un peu ce brin de folie de vouloir faire rajouter le défi sportif et le défi survie en plus de ça.
Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours aimé. En fait, je me sens vivant quand je suis vraiment dans une problématique. Si tu veux, plus je suis dans la merde, plus je me sens vivant. Et tu vois, t'as le côté du, tu sais, on parle du flow, FLOW, de se sentir, de vivre le moment présent. Et en fait, je vis ces aventures pour tout plein de tas de raisons, hein, que ça soit écologique, pour faire passer des messages, pour aller rencontrer des communautés perdues, indigènes, etc. Mais je le fais également parce que c'est, faut le dire, c'est égoïste aussi, hein, de faire des aventures, parce que je le fais pour moi. Et t'as vraiment cette sensation de flow et de dire. Là, je suis dans la merde. Là, je suis presque en train de crever. Je suis vraiment mal, mais je suis bien. Et je suis vivant là, maintenant. Et c'est super chelou, toi, comme sensation. Mais je voulais vivre, toi, ces moments, que ça soit intense, que ça soit pas juste, j'ai traversé l'Australie. Bon, tu prends une moto, tu prends un vélo, genre, je traverse l'Australie. Mais là, je voulais vraiment traverser l'Australie. Et je voulais aller rencontrer les aborigènes. Pour moi, parce que c'était les peuples autochtones, les vrais habitants de l'Australie, je voulais vraiment les rencontrer de la même façon où leurs ancêtres se déplaçaient, c'est-à-dire à pied. Et quand je suis arrivé dans la communauté, quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit « Mais tu viens d'où comme ça, toi ?» Je suis de Melbourne. Mais tu sais qu'il y a des voitures, ça existe. Hein. Et je trouvais ça génial, le parallèle, de dire bah, « Mais je voulais vraiment vous rencontrer de la façon la plus simple. » Et pour moi, c'était de venir en courant, venir à votre rencontre.
Ouais, ouais. Mais c'est fou cet appel, tu vois, de la survie, parce que là maintenant ça coule de source et ça résonne vachement fort, tu vois, quand tu le dis, plus t'es dans la merde, plus tu te sens vivant. Mais tu sais, quand tu l'as jamais vécu, des fois il y a quelque chose qui t'appelle, tu t'en doutes, tu vois, mais comme tu l'as jamais vécu, tu sais pas vraiment si c'est réel, tu vois.
Tu sais pas ce que je veux dire aussi.
Ouais, exactement.
C'est pas jusqu'où ça va, la limite de. Et c'est ça que je trouve, tu vois, sur ma conférence que j'ai faite, mon TEDx à Orléans, quand je dis oser, c'est gagner, je dis, mais faites-le, osez, essayez, tentez, de toute manière, vous pouvez que gagner, que apprendre des choses. Mais en fait, les gens n'osent pas ce petit truc en plus. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on parle de sortir de sa zone de confort, il faut faire attention, tu vois, jusqu'où on peut aller de sortir de sa zone de confort. Mais c'est tellement gratifiant de se dire waouh, j'ai dépassé certaines de mes limites, certaines de mes croyances, et ça c'est génial.
Ouais, bah aussi parce que peut-être il faut faire des choix, hein. Et généralement les gens ils doivent faire un choix un peu rationnel qui est la zone de confort, continuer sa petite ses routines et continuer un peu tous ces process naturels, et de l'autre côté tout chambouler, tout partir vers un choix un peu irrationnel, et tu peux pas faire les deux, quoi. C'est difficile. Soit tu pars d'un extrême, soit tu pars dans l'autre. Et moi, je comprends aussi les gens, tu vois, qu'ont ce besoin de sécurité et de vouloir un peu continuer à bâtir plus ou moins tout ce qu'ils ont bâti, quoi. Même s'ils en rêvent, on en rêve tous, parce que toujours l'herbe est plus verte ailleurs, quoi, d'un côté.
Mais complètement. Mais je suis le premier à kiffer revenir à la maison. Je suis le premier à kiffer mon livre. Ah, c'est trop bien ce livre, il est trop bien. Je kiffe ce livre. Mais je suis le premier. Mais j'aime bien me confronter aux éléments et tu vois faire. On en parlait tout à l'heure en off sur les stages de survie. Tu vois, c'est un truc, c'est pareil. J'adore être en pleine nature et j'adore quand il pleut, quand il fait froid, quand c'est vraiment un temps de merde. Parce que quand tu rentres à la maison, t'es rincé. Mais qu'est-ce que c'était bon.
Ouais. Ouais, tu le mérites. Il y a un sentiment de satisfaction personnelle qui est beaucoup plus élevé quand c'est plus dur. Hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr.
Exactement.
Et moi, j'ai une petite question un peu sur la logistique, parce que là, tu te fixes ce défi. il s'avère que 8 mois après tu pars, t'as jamais fait réellement d'expédition comme ça. C'est vraiment une expédition extrême parce que tu le fais en le plus possible en tout cas en autosuffisance et avec les moyens du bord, donc trouver son eau, trouver sa nourriture. Tu pars dans le désert le plus dangereux du monde, donc tous les mythes qu'on peut voir dans certains reportages effectivement sur les 20 serpents les plus dangereux dans le monde.
Ils sont vrais.
Toi tu en plus il s'avère que pour avoir un petit peu écouté tes récits, tu les as rencontrés, t'as rencontré tous ces dangers là. Comment est-ce que tu le prépares en fait, tu vois, comment est-ce qu'on peut préparer quelque chose d'aussi dur aussi rapidement, tu vois, et moi ce qui m'intéresse c'est aussi de savoir peut-être un peu le méta de tout ça, c'est parce que tu as réussi à le reproduire. Non seulement tu l'as fait une fois, mais tu le reproduis plusieurs fois pour toi et ensuite tu le reproduis pour les autres. Mais du coup, quel est le processus pour organiser une expédition aussi difficile que celle-ci?
Je pense que la première chose à faire, c'est exactement la même chose que lorsqu'on est entrepreneur et qu'on se lance dans une nouvelle entreprise, peu importe ce que c'est de c'est comme ça que je le vois, hein, c'est de réaliser un dossier de présentation, tu vois, avoir une papier crayon et de dire quand, quoi, comment, pourquoi, qui, avec, en fait, de répondre à des questions basiques. Et le fait de rien que de faire ça et de commencer à poser des réponses toutes simples, et d'avoir, si tu veux, un grand tableau avec toutes ces petites ficelles qui partent d'un point central. Je veux traverser l'Australie en courant. Et on commence à dire comment. Ok, il me faut ça, il me faut un visa, il faut de l'équipement, il faut ça, etc. Et en fait, on tisse une toile devant soi. Et en tissant cette toile, on travaille son mental parce qu'indirectement, on en rêve la journée, on en rêve la nuit. Moi, la nuit, j'avais mon petit calepin avec mon crayon à côté de moi et je dormais. Et des fois, en pleine nuit, je me réveillais en sursaut. Je suis, hop, crayon, mais il y avait ça aussi, hop, et je me rendormais. Et plein de trucs qui venaient comme ça. Et donc, forcément, il y a tout un aspect après, qu'on connaît de plus en plus, notamment avec les réseaux sociaux, sur l'aspect communication, marketing, que je t'avoue que je ne connaissais rien du tout. En 2011, c'était juste, mais catastrophique. C'était très drôle. Et j'aimerais trop revenir en arrière pour dire, putain, mais ne fais pas cette connerie. Tu vois bien que ça sert à rien. Mais je pense que, la première chose à faire, voilà, c'est de poser sur un papier vraiment ce qu'on veut comme idée et de définir tout ça. Et quand on fait un joli dossier de présentation, bah, du coup, on y consacre du temps, on fait des recherches, on se pose des questions, on se pose des bonnes questions, les mauvaises questions, etc. Peu importe, mais on se pose plein de questions. Et on écrit tout ça sur son dossier. On fait une belle présentation et ça prend du temps, hein, de faire un joli dossier, de tracer son parcours, de réfléchir à tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Et en fait, une personne qui réalise un dossier, qui vient de voir, même toi, j'ai pas mal de personnes qui me contactent pour être parrain ou etc. Et je leur dis envoie-moi ton dossier. Mon dossier, mais quel dossier? T'as bien fait un dossier, non, de présentation. Non, j'ai pas fait de dossier. Mais je sais ce que je veux faire. Alors tu sais quoi? Tu vas d'abord faire ton dossier et quand ton dossier sera fait, tu viendras me voir. Parce que t'imagines que je suis pas ton parrain, mais t'imagines que je suis ton mécène ou alors le sponsor que tu voudrais qui te lâche 30, 40, 50 000 euros. Viens me présenter ton joli projet. Viens me présenter ton dossier. Et en fait, c'est ça que je veux. Et en fait, si la personne le fait, eh bien, déjà, tu ressens une vraie motivation à se dire, il va en tout cas tenter l'aventure.
Ouais. Non, mais ça, pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. Le fait de mettre ces idées sur papier, ça permet de les construire, de les ordonner, de leur donner des priorités. Ça leur fait aussi prendre forme. Et exactement. Dès que tu montres ce dossier-là, du coup, il devient réel aussi pour quelqu'un d'autre qui va lui-même te poser des questions auxquelles t'avais pas pensé et que tu vas continuer justement à progresser. Et tu rentres dans un espèce de travail de visualisation, en fait, où tu vois toutes les tâches qui vont s'enchaîner et toutes les actions que tu vas devoir monter. Ouais. Donc, effectivement, c'est intéressant. Et du coup, là-dedans, il y a du sport quand même un peu ou il y a de l'expédition. Ouais. Comment est-ce que tu peux préparer du coup sur cette partie-là aussi? Ça part aussi du dossier, j'imagine.
Alors, ça part du dossier parce que quand tu te dis je vais traverser l'Australie en courant et que tu fais ton point de départ à ton point d'arrivée, puis t'es pas sur Google Maps, hein, t'es sur une vieille carte que t'as trouvée, puis t'es là. Puis tu regardes l'échelle, tu dis, putain de vache, mais c'est long en fait. Attends, en courant et tout, mais faut que je m'entraîne, moi, je cours pas et tout. Et donc c'est là où tu prends conscience aussi de ton projet, parce que plus t'en parles et plus les gens attendent des réponses. Et donc forcément, il faut montrer que tu avances de ton côté. Et c'est là où tu te dis, il va peut-être falloir s'entraîner quand même un petit peu. Et donc, je me suis mis des coups de pied aux fesses en n'ayant aucune base. Je me suis entraîné, j'avais pas de coach sportif, j'avais personne pour m'aider. J'ai tout fait tout seul à l'arrache et je suis même plutôt content d'avoir réussi à faire mes 8 mois d'entraînement sans me blesser.
Ouais.
Parce que j'aurais pu commencer l'aventure avec une luxation, une connerie, tu sais, parce que j'ai fait tout simplement du surentraînement. Des fois, c'était too much, tu vois, de concilier le sport et également la restauration, parce que je travaille encore.
Donc, ah oui.
Oui, bah oui.
Tu as le temps pour faire les trois. Ah oui.
Okay. Non, pas forcément, mais du coup, c'est ce que je dis, hein. Dans une journée, on n'a que 24 heures. Et on a beau faire ce qu'on veut, on peut tirer dessus dans tous les sens, il n'y a que 24 heures. Et donc, là-dessus, il faut caler le travail, la vie de famille, le sport, les préparations, etc., etc. Il faut réussir à tout mettre là-dedans. Et j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, quand je me suis à fond en train de me faire la préparation ou même pendant les expéditions, la seule chose que j'arrive à couper, qui malheureusement me pompe de l'énergie parce que j'arrive pas après à être performant pour les jours d'après, et ça se ressent parce que bah, quand t'accumules, bah, ça devient difficile, et bien c'est le repos, c'est les temps de sommeil, c'est la partie de la nuit, et l'Australie, je devais dormir, je sais pas, je vais dire une connerie, entre 3 et 5 heures par nuit à peu près, le Mekong, c'était pareil, et le Tour de France à la nage, bah, c'était presque la même chose, parce qu'on je faisais 12 heures de nage, tu parles pendant une heure, le temps de faire un débrief, de trouver l'endroit où tu vas dormir, de manger, de prendre une douche, d'appeler à la maison, de raconter que tout va bien, etc., d'appeler la com, etc., pour qu'ils puissent tout mettre en branle, quoi, pour le jour d'après, et faire le brief pour le jour pour le lendemain. Bah, tu te couches, il est minuit, puis bah, faut se lever à 4 heures, et bah, c'est reparti. Et là, tu te dis, c'est pas possible, il y en a un qui a remonté la pendule dans le mauvais sens, là, les gars, j'ai même pas eu le temps de dormir. Et c'est la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est de couper dans le sommeil. Mais il y a une grosse partie de préparation et c'est parce que j'avais mon objectif en tête et que je l'avais bien en vue que j'ai réussi à maintenir ma cadence, mes entraînements et de concilier voilà le travail, les entraînements, monter les projets, démarcher les partenaires, etc. pour aller au bout de mon truc.
Ouais, mais tu te rends compte qu'il faut quand même des qualités intellectuelles aussi quand même un petit peu aiguisées ou en tout cas très très bien orientées, tu vois, pour réussir en aussi peu de temps à monter une expédition comme ça, tu vois. Et tu vois, il y a plein de gens, disons que sur ces 8 mois, tu dois partir d'un point A à un point B, qui est point A, j'y connais rien et je sais pas exactement ce qu'il faut faire, j'ai juste un rêve. Et point B, c'est j'arrive là-bas, je suis prêt, j'ai plein de savoirs emmagasinés, j'ai beaucoup d'entraînements que j'ai emmagasinés aussi et puis tout ce qu'il a fallu exécuter. Et tu vois, entre ce point A et ce point B, il y a des gens, ils vont faire un zigzag, tu vois, ou ils vont faire une sinusoïde. Et toi, t'arrives en aussi peu de temps, je pense qu'il faut tracer la ligne droite, tu vois. Et c'est pas, je sais pas si c'est, enfin, en tout cas, moi, je vois beaucoup l'exploit dans la vitesse. Pas forcément dans la capacité à organiser un événement comme ça. Je pense que, effectivement, on peut tous s'y mettre et y arriver. Mais, en aussi peu de temps, pour le coup, ça, je trouve ça, mais brillantissime, quoi. Donc,
Je pense que il y a une grosse partie, c'est le culot et l'audace. Enfin, quand je me suis mis dans ce projet, moi, les portes, elles étaient fermées, mais j'ouvrais. Peu importe comment, j'essayais. Ouais. Et à chaque fois, je venais avec mes pauvres dossiers de présentation et j'en ai retrouvé un l'autre fois à la maison. Je fais, mon Dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est moche. Et j'avais fait avec mes dossiers et j'essayais tout le temps et sans jamais lâcher le truc, tu vois. Et puis ensuite, c'est une chose que je dis souvent à mes stagiaires lors des stages de survie. Je leur parle d'être pragmatique et opportuniste. Et c'est exactement ça. J'ai toujours fait les choses en étant pragmatique, notamment pendant l'aventure. Tu vois un serpent, tu réfléchis comment l'attraper, etc. Et tu pars du principe. Moi, je suis toujours parti du principe où peu importe ce que c'est, hein, c'est mortel. Point. C'est un serpent. Voilà. On sait. Mais t'inquiète pas, hein, c'est une couleuvre. M'en fous. C'est mort. Je peux mourir. Donc, j'ai toujours été pragmatique sur comment faire, etc. Et j'avais toujours cette pensée de me dire, ok, mais si je fais ça, comment est-ce que je vais faire pour trouver une solution s'il m'arrive ça, etc. Et en fait, on va dire d'être seul au milieu de nulle part et sans personne à qui parler, eh bien, tous ces schémas, je les faisais à chaque fois quand j'arrivais dans un environnement que je maîtrisais pas vraiment. Je posais le décor et je disais, ok, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui s'est passé quand j'ai bu, tu vois, ma pisse pour pas crever en plein milieu du désert. Avant de la boire, j'ai creusé, j'ai regardé la creek, j'ai commencé à creuser dans la creek et je me suis dit, ok, arrête deux secondes, réfléchis. Est-ce que l'énergie que tu vas dépenser pour creuser, est-ce que ça va être gratifiant? Est-ce que tu vas vraiment retrouver de l'eau? En fait, c'est un jeu à la con parce que la creek, elle a séché et tu sais pas du tout où se trouve l'eau. Si elle est à 30 cm et tu creuses à 30 cm et il n'y a pas d'eau. Et tu te dis, et là, tu peux te dire, est-ce que je creuse un petit peu plus et l'eau, elle est à 40 ou pas? Et en fait, c'est de l'énergie. Et en fait, je me posais toutes ces questions avant de me lancer dans quelque chose. Et c'est ce qui m'a sauvé, je pense, plein de fois. Et après, moi, j'apprends souvent par mimétisme. Je regarde les autres et il me faut pas longtemps. Je vois une personne faire, je regarde 10 secondes et ok, j'ai compris. Et après, je reproduis très rapidement. Et tu vois, je donne des stages de survie. J'ai très peu appris. Tout ce que j'ai emmagasiné, c'est les choses que j'ai appris tout seul au milieu de nulle part en faisant des erreurs qui m'ont pas été fatal, sinon on serait pas en train de se parler forcément, mais qui n'ont pas été trop problématiques. Et j'ai testé plein de choses et j'ai dit non, on va en faire comme ça et là ça marche comme ci, etc. Et j'ai reproduit après tout simplement en donnant des cours de survie sur les thématiques, quoi.
Ouais. Et tu penses pas que d'ailleurs, tu vois, ce pragmatisme, c'est la qualité essentielle de l'aventurier ou en tout cas des personnes qui vont se lancer des défis extrêmes. Tu vois, là, quand tu le dis, c'est tout de suite ce qui m'est venu à l'esprit. En fait, ça paraît évident que si tu fais, sur tous les choix que tu dois faire, si t'en fais un de mauvais, bah, il peut se passer une catastrophe.
Bien sûr.
Donc, finalement, la réussite de ceux qui, enfin, le biais du survivant, en tout cas, de tous ceux qui réussissent ces expéditions-là, ça serait finalement leur capacité à faire des bons choix au bon moment, quoi.
Il y a les bons choix au bon moment, mais après, il y a la façon de le préparer. Moi, je le dis très régulièrement, une aventure, ça se prépare en trois phases. Il y a la préparation, la réalisation et la restitution. Hein, il y en a qui disent, ah, mais il y en a qui s'en foutent de restituer, etc. Si, tu restitues forcément. Parce que l'être humain est une personne. Si tu vis sur Terre et qu'il n'y avait pas d'autre humain pour pas partager, ben en fait, tu t'irais de pendre, t'irais de jeter d'un pont parce qu'il n'y a aucune raison de vivre. Donc, il y a forcément une phase de préparation, une phase de réalisation, une phase de restitution. Même si t'en parles qu'à ta mère, qu'à ton père, qu'à tes frangins, frangines ou tes enfants, t'en parles à quelqu'un. Donc, il y a une phase de restitution. Et la phase de préparation, elle est super importante. Il y a forcément une partie d'aventure parce que ben justement tu sais pas du tout dans quoi tu t'embarques et c'est ça aussi qui est excitant parce que il y a des problématiques qu'il va falloir régler sur l'instant T, mais c'est quand même vachement plus simple des fois de régler un problème quand t'es assis à ton bureau en train de boire une bière, quoi.
C'est il y a toujours plus simple,
hein. Et ouais, que de se retrouver au milieu de la pampa ou un truc comme ça avec des mercenaires ou des gens parce que fallait pas que tu passes là j'aurais pas dû. Et ça, en fait, avec de la préparation en amont, peut-être que t'aurais pu l'éviter.
Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et effectivement, sur chacune de ces trois phases, il y a des qualités qui sont vraiment différentes, les unes par rapport aux autres, en fonction de la phase dans laquelle tu te trouves, quoi. Ça, c'est clair, c'est évident.
Exactement.
Je me posais un peu la question, tu vois, vu que maintenant t'es un peu dans, on va dire, dans cette phase. Si on regarde un petit peu ton parcours sur les périodes de ta vie, t'es plus dans la phase peut-être un peu plus transmission ou restitution, puisque tu partages de plus en plus ce que tu fais aux autres et t'essayes même de le transmettre et de l'apprendre. Et t'arrives à voir justement des patterns ou des modèles un peu psychologiques sur parmi les personnes que t'accompagnes sur justement parce que quand on regarde tes vidéos, tu vois, il y a un peu tout type de profil dans les gens qui font tes stages. Mais est-ce qu'il y a un modèle psychologique, un type de personnalité, quelque chose qu'ils ont en commun et tu vois qu'on peut pas voir forcément de l'extérieur et que toi tu vois?
Ils ont pas ils ont cette envie de découvrir la nature, de partir, découvrir de nouveaux horizons, de s'évader. Ça, c'est clair. Mais c'est marrant que t'en parles, parce que j'en parlais il y a 2-3 jours avec Philippe Ferrer, qui est le président du syndrome de Love, pour lequel j'avais traversé l'Australie. Et donc, je suis le parrain depuis 2018. Et je lui disais, en retour, j'étais en stage ce week-end, et je lui disais, putain, mais je kifferais, tu vois, de faire des études de psychologie pour comprendre comment les gens interagissent entre eux, entre leur façon de prendre le lead pour telle ou telle chose, etc. Toi, par exemple, l'expédition en Australie qu'on a faite, enfin, l'aventure en Australie, le stage de survie en novembre 2019 où j'ai embarqué les gens avec moi, mais j'aurais kiffé d'avoir un psychologue avec moi à ce moment-là qui dise rien, tu vois, juste papier crayon et non, vous inquiétez pas, moi je suis monsieur, et là, il note tous les trucs. Et je trouvais ça passionnant parce que chaque personne a une façon de voir les choses, des envies aussi. Et c'est ce que je leur ai expliqué. Vous pouvez pas juste être égoïste parce que vous êtes pas tout seul. Vous êtes un groupe. Ouais. Et votre part d'égoïsme peut emmener le groupe à sa perte. Parce que vous voulez faire ceci, parce que vous voulez faire cela. Et non, c'est pas possible. Parce que si tu pars, toi, dans un coin pour aller chasser un truc, ou toi, tu décides de faire 50, 60 kilomètres parce que tu en as envie, etc., d'autres personnes n'auront peut-être pas cette capacité ou cette envie. Et donc, ça pourra peut-être les emmener à leur perte. Et il faut trouver, tu vois, le petit truc pour remettre les verres à tout le monde à peu près à niveau, de dire, bon, toi, faut que tu sois un peu plus comme ci, toi, un peu plus comme ça, et puis ben, on va trouver un équilibre entre tout le monde. Et c'était pour moi un truc de dingue à gérer l'aspect psychologique, mental des personnes, parce que je suis dans le même état qu'eux. Hein. Je me tape les 40 bornes et il fait 50 degrés de température et il faut aller devant et il faut aller derrière et il faut aller devant et il faut aller derrière et il faut aller parler et ça va, oui, ça va, ça va.
Faut penser à tout.
Et voilà, faut penser à tout. Et il y en a un qui s'en va pour pisser. Fait, t'es sûr que tu vas pisser? Oui, ok, on l'attend, hop, ça. Et mentalement, ouais, c'est... Tu vois, à la fin, Valentin, qui est donc mon vidéaste avec qui je travaille, et on se check et il me dit, ça s'est fait, Rémi, bravo, franchement. Et tous les stagiaires m'ont dit, c'est dommage, c'est déjà fini. Je fais, non, c'est enfin fini. J'avais une pression, tu sais. Pff, je fais, je suis trop content. Vous êtes tous rentrés vivants. et toi, ça, c'est un truc aussi qui est très pesant, tu vois, sur soi, de se dire, t'as quand même la responsabilité de tout le monde et, dans la logique, ils sont venus à 6, faut les ramener les 6, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais j'en profite, tu vois, pour faire un peu la promotion de justement de cette petite série que t'avais fait, notamment de la vidéo, parce qu'elle est top, quoi. C'est une vidéo, quoi, qui dure une 45 minutes, quelque chose comme ça, où on voit effectivement toute cette expédition là, et on se doute pas, en fait. Moi j'ai pensé tout de suite à ça. C'est marrant que t'en parles, parce que j'ai pensé tout de suite à ça. Je me suis dit, ah ouais, là il se met vraiment en danger, parce que c'est facile de faire une expédition tout seul. C'est, si t'arrives un truc, c'est pour ta pomme.
Et tu l'as choisi.
Exactement. Et tu l'as choisi. Et bon, tu l'as imposé à tes proches. Ça, c'est quand même quelque chose de dur.
C'est ce que j'enseigne très souvent au stage de survie aux personnes. Je leur dis, comprenez que on est en 2021, que la communication, elle a jamais été aussi simple. Vous devez communiquer avec les gens qui restent à la maison. Vous faites le choix de partir. Putain, il y en a qui font le choix de vous laisser partir. Et le plus dur, c'est pas pour vous, c'est pour eux. Donc, respectez-les, donnez-leur des informations et détaillez les choses au maximum. De dire, et je le regrette, ma maman m'appelait tous les 3 jours en plein milieu du désert. Et à chaque fois, je disais, alors, t'es où? Je fais, je suis dans le désert. Elle fait, et il y a quoi? Je dis, du sable, un kangourou mort, des arbustes, et il fait chaud. Ok, ça va. Et on raccrochait. 3 jours après, elle me rappelait. T'es où? Je suis dans le désert. Mais il y a quoi? Du sable, un kangourou mort, des arbustes, et il fait chaud. Il fait, t'as pas bougé? Je fais, tu sais, l'Australie, c'est grand. Et j'en disais pas plus que ça, tu vois, et je raccrochais.
Ouais.
Et maintenant que j'ai mûri, et puis ça fait voilà plusieurs années que je fais ça, eh bien, je me rends compte de l'importance que c'était de communiquer avec du détail, de lui donner du détail, parce que moi, je vivais l'aventure, et je le vivais vraiment, donc je savais ce qui se passait. Mais elle, à l'autre bout, en France, dans sa toute petite maison de campagne, la seule chose qu'elle avait, il est dans un désert, il fait chaud, il y a un kangourou mort, il va crever. Et c'est là où je leur dis, s'il vous plaît, communiquer, c'est vraiment important.
Ouais, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que ça me fait penser à une conversation que j'avais eue avec un pilote de chasse qui était paru sur le podcast et qui était vraiment génial. Et tu as parlé dans les trois phases, toi, de ton expédition. Lui, il parle des plusieurs phases du vol et il y a toujours le débrief. Et le débrief, c'est quelque chose de hyper important. Et il explique à quel point, en fait, c'est important de donner un maximum de détails sur son débrief, parce que ça, c'est comme ça qu'aussi que ça te permet d'apprendre, de communiquer, de transmettre aux autres et de montrer que tu es serein, de montrer que tu es en connaissance, et ça te permet de maîtriser un peu les événements, quoi. Et peut-être ouais, sur la partie un peu management et gestion d'une équipe, je sais pas si comme tu l'as dit, tu vois, si une personne peut causer un peu la perte du groupe. Comment est-ce que tu fais pour te prévenir de ça? Alors, je sais que tu as sélectionné ces personnes-là. Ouais. Peut-être que tu peux nous donner peut-être un ou deux secrets de ce processus de sélection. Mais qu'est-ce que tu vas vraiment chercher à t'assurer pour qu'il n'y ait pas de catastrophe, tu vois, pendant un stage? Parce que, je retiens la question, mais je te donne un petit exemple. Mais moi, je suis beaucoup intéressé par l'aérospatial, et typiquement, la première chose qu'on vérifie sur deux pilotes ou deux astronautes qui vont partir ensemble, c'est leur compatibilité. Et c'est très 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 simple. Ils vont là, comment est-ce que c'est fait? Ils les foutent pendant plusieurs dizaines de jours ensemble, et puis ils regardent s'ils arrivent toujours à s'encadrer à la fin du mois, quoi. Il y a aussi plein d'autres tests, mais sur lesquels la NASA et les différents organismes restent assez opaques, tu vois. Mais toi, est-ce qu'il y a des choses que tu es allé chercher en particulier? Est-ce qu'il y a eu des tests en particulier que tu as mis en place justement pour prévenir?
Ce que tu dis, c'est un petit peu la méthode DISC, la méthode des couleurs, quoi. C'est un peu la même chose de ce qu'on peut voir, s'il est rouge, s'il est bleu, s'il est vert, s'il est jaune. Et c'est ce que j'essaye, en tout cas, moi, de chercher dans la phase test. Par exemple, pour l'Australie, certes, l'aspect financier, et en fait partie, hein, forcément, c'est un stage qui est payant, faut emmener les gens en Australie, il y a toute l'organisation, etc., payer la partie sécurité, voilà, et ainsi de suite. Et je voulais vraiment voir jusqu'où ils étaient capables de, et donc on les a ensablés à Barfleur pendant 8 heures dans un trou, on les a juste laissé la tête hors du sable, et enfin voilà. Vous avez 8 heures, profitez-en. Et ils m'ont dit, non, mais on va pas rester 8 heures comme ça. Je fais, si, maintenant que vous y êtes, de toute manière, je peux pas sortir. C'est pas grave. Et ce que je voulais, c'était voir les émotions, comment les gens allaient gérer cette emprise, d'être complètement écrasé, de se sentir oppressé et puis agressé par le soleil, par les éléments extérieurs. Et on peut rien faire. On peut que se laisser, porter, parce que de toute manière le vent vient te gifler, le sable, le soleil te brûle, et tu peux rien faire, tu peux que attendre. Et ça te permet également de voir comment les gens gèrent la patience, est-ce que ce sont des gens qui ont des pics d'humeur, etc. Et je savais en partant en Australie que il y avait des caractères un peu plus chauds, tu vois. J'avais Rose, je sais que ça, elle avait un caractère un peu plus, tu vois, un peu plus relevé. T'avais Philippe aussi, qui était le doyen de notre aventure, qui avait un caractère un peu plus trempé. Donc je savais que, voilà, c'était des esprits forts et que il fallait faire attention, tu vois, par rapport aux autres qui étaient des gens un peu plus modérés, que ça allait peut-être créer certaines tensions. Et je crois que c'est même Philippe qui l'a dit, et je dois l'avoir, je crois, même en vidéo, elle a dit, on restait une semaine de plus, je crois qu'on se tapait avec des morceaux de bois. Parce que le fait d'être dans un environnement que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, qui est complètement hors de contrôle de ce que tu as l'habitude de faire, et c'est exactement ça, sortir de sa zone de confort, là, c'est exactement ce qui s'est passé, eh bien, tu sais pas comment tu vas réagir. En fait, c'est des actes très primitifs, tu reviens aux choses vraiment basiques, à manger, à boire. Je crois qu'il y en a certains qui s'étaient énervés parce que il a mangé plus ceci, etc. Enfin, tu vois, c'est des choses. Je l'ai vécu auparavant, tu vois, mais j'étais tout seul. Donc, ça, pour moi, ça me passait complètement au-dessus d'avoir quelqu'un qui mange plus ceci ou plus cela. Enfin, peu importe. Et les gens n'ont pas cette habitude de tellement se sortir de cette zone de confort, de se pousser dans leur retranchement, que du coup, ça crée des tensions. Et on a forcément des caractères forts qui viennent, tu vois, s'entrechoquer comme des électrons un peu libres, des fois un peu trop libres.
Ouais, mais là tu parlais du test disque et des profils disques, mais peut-être, alors je sais pas si t'en as déjà entendu parler, mais c'est le Processcom qui parle énormément de comment tu réagis face à une situation de stress. Tu vois, le disque, ça va plutôt être comment est-ce que tu domptes ton environnement, ouais. Et le Processcom, c'est vraiment en situation de stress, en situation de tension, comment est-ce que tu vas réagir. Et mais c'est marrant que qu'on en parle. Je suis en train de bosser là-dessus justement pour moi et mes équipes, donc je vois ça. Donc c'est un des seuls tests que tu vas faire, c'est effectivement ensabler les gens et
il y a la partie mentale,
les observer et, voilà. Et leur demander leur motivation aussi, j'imagine.
Exactement. Tu as la partie mentale qui est pour moi primordiale sur la partie physique, parce que tu as beau avoir des fois le physique de l'athlète, etc., si tu veux pas te donner à fond et te pousser un peu, tu t'es pas forcément la personne qui va passer la ligne d'arrivée. Tu vois, on avait dans l'équipe, il y avait Audrey, qui est une copine que je connais depuis pas mal d'années, qui était un petit peu en surpoids, tu vois. Et putain, elle a rien lâché, Audrey. Elle a été jusqu'au bout. Et pour moi, ça a été l'aventurière de ce groupe, parce que elle peinait des fois, elle avait les larmes aux yeux, elle n'en pouvait plus, et elle allait jusqu'au bout. Et tous les jours, elle était là au bout et à gonfler les matelas, à préparer le peu de repas qu'on avait, etc. Et elle était là et elle continuait. Et c'est ce que je trouvais fort, tu vois. Et c'est ce que je recherche en fait dans ces personnes, c'est qu'ils puissent se transcender et se donner les moyens d'aller jusqu'au bout.
Et comment tu les prépares avant le départ? Tu vois, est-ce que tu leur donnes un carnet d'entraînement? Est-ce que tu leur donnes une liste de, j'imagine que tu leur donnes une liste de matériel qu'ils vont faire? Comment est-ce que, c'est quoi, moi je me pose toujours la question de c'est quoi un peu l'onboarding, un peu entre guillemets, tu vois, de ce type d'événement. Je serais curieux de savoir ce que tu peux mettre en place, parce qu'effectivement quand on regarde les profils qui sont, comme tu l'as dit, il y a des profils qu'on, je dirais, ils n'ont pas le profil type de l'athlète, tu vois. Donc tu peux te dire, okay, oula, est-ce qu'ils font du sport, est-ce qu'ils seront capables de s'entraîner? Comment est-ce que tu peux les préparer un petit peu avant de partir?
Bah après, c'est beaucoup d'échanges, et puis je leur demande vraiment de le faire, de s'entraîner, d'aller marcher régulièrement, d'aller courir, d'être prêt, parce que le jour J, c'est pas comme un stage de survie en France où si on en a marre ou si ça va pas, en 400 mètres, il y a la voiture et on arrête. Là, il n'y a pas de chemin, on revient pas à la case départ. Hein. On est tous là ensemble. Et comprenez que s'il y en a un qui décide d'arrêter l'aventure, c'est l'aventure pour tout le monde qui s'arrête. C'est pas juste une personne. Donc, comprenez que votre décision va impacter tout le monde. Donc, c'est vraiment beaucoup d'échanges. Après, il y a forcément une liste de matériel à emmener, etc. Moi, j'essaie toujours de me débrouiller pour avoir plein de choses en plus à côté pour les rassurer, du matériel que je peux récupérer de mes partenaires, etc. Mais voilà, après, je leur dis, c'est votre aventure. Prenez-la vraiment sérieusement, parce que comprenez que une fois arrivé sur place, il n'y a pas de point de non. Vous y êtes, on y est, hein, c'est fini. On part pas juste en road trip au Danemark. Hein, on part vraiment au fin fond du bush australien. Donc, prenez ça en considération et comprenez aussi que vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes en équipe. Donc, si vous arrêtez, tout le monde arrête. Et donc, je ne dis pas que c'est de la psychologie, tu vois, c'est pas pour faire peur, mais c'est vraiment pour les mettre face à leurs engagements, de dire, attention, c'est pas juste une petite aventure. C'est vraiment une aventure et c'est risqué aussi. Il peut y avoir, je ne vais pas dire qu'il peut y avoir des morts. Enfin, si, il peut y avoir des morts. Si, il peut y avoir des morts. Ouais.
En parlant de ça, peut-être, tu vois, hormis peut-être les situations de crise qu'il peut y avoir d'un point de vue humain, vous avez rencontré des situations vraiment de dans lesquelles vous étiez en vrai danger, peut-être physiquement, et dans lesquelles il a fallu peut-être, je sais pas, que l'équipe ou que toi intervienne pour pouvoir le résoudre.
Alors c'est pas un danger comme on peut l'imaginer avec des animaux, etc. Parce qu'on était sur une période extrêmement sèche à cette ouais. époque-là en Australie. Donc on était juste avant la période de mousson. Donc c'était vraiment la fin de la période, la saison sèche. Donc tout était brûlé par le soleil. T'avais pas un seul animal qui sortait. On a vu juste quelques petits lézards. Enfin, c'est vraiment ridicule par rapport à ce que moi j'avais vu quand j'avais traversé l'Australie en courant.
C'était
choisi sur la partie difficile, parce que je voulais qu'on puisse voir des animaux, mais j'allais dire mais pas trop parce que j'avais pas envie de me retrouver confronté à devoir gérer des tiger snake ou des taipans, des trucs comme ça, des serpents qui sont dans le top 10 des serpents les plus mortels au monde, et t'en as un notamment qui est en Australie, qui est le taipan Eastern taipan, qui est magnifique, qui a la même couleur que le sable, et il est pile poil là où on était. Donc j'avais juste pas envie, tu vois, qu'il y en a un qui me dise ah, je vais pisser, et, ah mais il y a une petite bête sympa. Non, il n'y a pas de sympa, non, rien de sympa. Donc ouais, il y avait cet aspect logistique qui était pour moi important. Et puis sur l'aventure, la seule chose qui c'est pas qui m'a fait peur, mais je savais pas comment ça allait se passer, et c'est quelque chose que j'ai toujours dit dans toutes mes aventures, ce qui me fait le plus peur, c'est la rencontre avec les hommes. En fait, ce sont les deux choses les plus les opposées, c'est-à-dire que la rencontre avec les hommes me fascine et me fait tout aussi peur, parce que tu sais pas de quoi ils sont capables. Et en Australie, ça s'est avéré, on était sur le chemin du retour, on était à une journée d'arrivée à Karachuta, donc les 36 dômes. On avait bientôt fini notre petite aventure. Et là, je vois un gros truck qui arrive, les gros road train en Australie, donc avec les gros trucks américains devant. Enfin voilà. Donc il arrive, et le mec il ralentit, et il s'arrête en plein milieu de la piste. Genre, je m'en fous complètement, j'arrête le machin ici de venir. Et le mec il descend. Pantalon cowboy, les Santiago, petite chemise remontée, chapeau et tout ça. Et là, how's it going, mate? Alright. Et là, on arrive. Et là, le mec, en moins de 5 secondes, il me sort une phrase. Et là, il y avait tout le monde autour de moi. Et là, je regarde, je fais, oh putain, ça va être chaud. Et en fait, malheureusement, il était sous l'emprise de stupéfiants, je sais pas quoi, hein, mais il était bien chargé, bien bien chargé. Aurélien, d'ailleurs, en rigolant après quand on est reparti, parce que tout le monde en avait un peu marre, il nous a fait un monologue sur la planète Terre, comme quoi la planète Terre était plate et que donc c'était aplatiste. Voilà. Et pendant 2 heures. Et j'ai trouvé ça juste exceptionnel que le mec pendant 2 heures. Et non, on était mais vraiment, t'imagines. 8 personnes, parce qu'il y avait Valentin et les 6 personnes plus moi. Donc 8 personnes en plein cagnard, 50 degrés de température sur une piste avec des habits complètement dégueulasses, remplis de sueur, tout ça. Le mec, son chapeau de cow-boy, en train de transpirer tout ce qu'il pouvait parce qu'il était complètement défoncé, en train de nous dire la Terre est plate pendant 2 heures. Et moi, j'essayais juste de trouver une porte de sortie pour, tu vois, que ça se passe bien. Et au bout de 2 heures, oui, je comprends, voilà, mais voilà, c'est vraiment super sympa. Merci pour toutes ces belles explications. On va devoir continuer parce qu'on n'a pas fini. Et en fait, je sentais que les stagiaires en avaient marre et voulaient partir. Et je leur dis en français, je fais, vous taisez. J'essaye de trouver une solution parce que malheureusement, il est sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Et je sais pas du tout jusqu'où ça peut aller. Et s'il pouvait être très agressif, tu vois, il avait une poigne monstrueuse, mais il sentait rien du tout, tu vois, il était complètement dans son truc, et j'avais juste peur que ça parte en sucette totale. Et tu vois, c'est pas la rencontre avec les animaux, ça me fait pas peur du tout, tout ça. C'est vraiment la confrontation avec l'humain, et est-ce que ça va bien se passer ou pas. Et c'est le seul moment où j'ai eu une petite bouffée de chaleur, me dire, oh, la vache, c'est chaud, comment est-ce qu'on va s'en sortir. Et t'avais son collègue qui était dans le camion, et l'autre, il avait un drap autour de la tête, il transpirait tout, il mettait des lunettes de soleil, il était complètement défoncé. Je disais, oh mon Dieu, ça va aller trop loin tout ça. Et ça m'a fait peur. Ça, c'est la partie, je savais pas comment ça allait se terminer.
Ouais, c'est vrai que limite les animaux, leur comportement, quand tu les connais un peu, il est assez prédictible, quoi. C'est si jamais tu les mets en danger, ils répondent, mais si tu les mets pas en danger, ils ne répondent pas. Donc c'est presque binaire et rationnel, tu vois. Mais
exactement.
Là où l'humain, parfois la corde peut être plus sensible, quoi.
Exactement. L'animal est juste logique dans ses réactions, alors que des fois l'humain, tu comprends pas. Et en fait, il peut aller tellement loin dans la méchanceté, dans sa façon de s'exprimer, de faire du mal pour juste le plaisir d'eux, que voilà, c'est la seule chose qui me fait peur, en fait.
Ouais, bien sûr, ouais, il est l'être humain a des réflexes un peu différents, ouais. Mais ça c'est clair. Écoute, bon c'est top et moi je me demandais un petit peu, tu vois sur les stages de survie, peut-être que tu vas faire, on va dire un peu plus mainstream ou en tout cas peut-être un peu plus sur lequel tu laisses un public un peu plus large, parce que t'en fais en France. Je voulais savoir peut-être est-ce que tu pouvais partager un petit peu aux auditeurs deux trois petits trucs concrets que tu apprends et peut-être aussi qu'est-ce que ça te transmet dans ton quotidien. Tu vois, j'imagine que tu vois les personnes que tu amènes en Australie, ils reviennent, ils prennent tu vois tous les chocolats chauds qu'ils vont prendre maintenant jusqu'à la fin de leur vie, ils auront plus le même goût, tu vois. Et il y aura un goût de plaisir, un souvenir, tu vois, qui va être ancré et tu auras vraiment démêler des choses très fortes en eux, mais peut-être sur quelque chose, peut-être enfin sur un stage un peu plus simple. Tu vois concrètement qu'est-ce que t'apprends et qu'est-ce que les gens, avec quoi les gens ils repartent chez eux comme apprentissage, mais aussi comme inspiration personnelle. Tu vois.
Bah comme inspiration personnelle, je dirais pour beaucoup c'est le fait de se reconnecter à la nature et à eux-mêmes et d'être sorti, d'avoir osé le faire, de dire il y en a beaucoup, toi, ils ont jamais dormi dehors, c'est la première fois qu'ils dormaient dehors.
Ouais.
Chose qui c'est pas choquant, mais moi dormir dehors, enfin je dors dehors, enfin c'est pas un problème, et pour beaucoup ils avaient jamais dormi dehors, donc pour moi c'est une satisfaction de se dire ils ont réussi, ils l'ont fait. Et puis après moi mes stages de survie que je donne, c'est des stages de survie où les gens, je les pousse un peu dans leur retranchement, notamment physiquement, tu vois, où ça monte ça descend, et puis quand ils pensent que c'est fini, bah ça monte encore et ça descend encore et ça monte encore et ça descend encore, et quand ils ont fini, toi ils disent ouais, c'était quand même, ouais, mais vous l'avez fait. Et vous l'avez fait parce que l'effet groupe a fait que on vous a mis un coup de pied au cul et vous avez réussi ensemble. Et en fait, on parle souvent à la fin, quand je pose la question, qu'est-ce que vous gardez en mémoire de cette aventure? Eh bien, beaucoup, c'est la cohésion, le partage, l'effet groupe. Et c'est ce que les gens adorent dans les stages de survie, toi, c'est de se dire, bah, ensemble, on va plus loin, tout simplement. Et ouais. Après, comme notion, vraiment, je leur parle comme ce que j'ai dit tout à l'heure, d'être pragmatique et opportuniste. Quand les gens me disent « Ah, tu sais faire un feu avec deux morceaux de bois et tout ça ?» Tu sais, comme les gens avec les archers et tout ça, je fais « Ouais, ouais, je sais faire un feu comme ça. Ouais. » Mais sinon, j'ai un briquet, hein, par contre. Hein. Après, voilà, si tu veux un feu, ou tu fais « Ouais, d'accord. » Mais je crois, et en fait, ils te disent « Ah, mais le mythe tombe là tout de suite. Hein. » Je fais « Non, c'est pas que le mythe tombe. » Mais ce que je veux à chaque fois, et notamment lorsqu'on est en survie, c'est parce que bah, malheureusement on a fait des choses qu'il fallait pas et on a la situation s'est dégradée tout doucement. Donc si tu es en survie, eh bien la chose que tu veux la plus rapidement possible, c'est un résultat. C'est pas comment j'y suis arrivé à ce résultat. Donc on s'en fout de savoir comment t'allumes un feu. On veut allumer un feu, donc on y va. Donc après je démontre plein de techniques pour pouvoir le faire parce que c'est super enrichissant et important. Et t'as besoin de connaître plein de choses pour le jour J, bah, mettre en place la meilleure technique pour le faire. Mais voilà, je parle souvent d'être pragmatique et opportuniste. Je dis, s'il y a un briquet et un lance-flamme, moi, j'ai ma solution pour allumer un feu. On va pas y passer par quatre chemins. Je vais te l'allumer, moi, le feu. Tu vas voir, on lance-flamme. Mais au moins, voilà, il faut aller vite. Et après, je leur parle souvent d'une règle de priorité, donc ce qu'on appelle la règle de trois, qui est une règle qui est basée sur le temps par rapport à ce que l'être humain est capable de supporter. Donc, on parle de toi, 3 secondes d'inattention, 3 minutes sans respirer, 3 heures de régulation thermique, 3 jours sans boire et ainsi de suite. Et du coup, quand je leur parle de ça, je leur dis, voilà, cette base de règles de priorité, ça doit être votre petit almanach, votre petit pense-bête, à chaque fois lorsque vous allez mettre en place une action, de vous dire, est-ce que l'action que j'ai mis en place, est-ce qu'elle est pertinente là, maintenant, à l'instant T? Et je leur donne des exemples très simples et concrets. Je leur dis, voilà, imaginez d'arriver le soir sur votre lieu de bivouac, vous avez plus d'eau, vous avez plus de nourriture, qu'est-ce que vous faites? Je fais, la priorité, c'est pas d'aller chercher de l'eau et de la nourriture, on s'en fout, parce que vous pouvez attendre demain, etc. Mais par contre, il va falloir mettre en place votre campement, et la priorité, c'est d'allumer un feu pour vous réchauffer, parce que si on est dans des conditions où il fait un peu plus froid, donc du feu pour vous réchauffer, mais ça va vous permettre de faire chauffer peut-être votre gamelle, d'éloigner les animaux si vous êtes dans une région extrêmement hostile avec des animaux dangereux. Donc, il faut mettre en place la priorité par rapport à l'instant T, par rapport à votre capacité physique, mentale, à l'équipement que vous avez, etc. Et donc, voilà, j'essaye d'agrémenter, d'articuler mon stage de survie à travers cette règle de trois, parce que pour moi, c'est une règle qui est vraiment intéressante. Elle a été mise en place par Xavier Maniguet il y a quelques temps. Et donc, il faut pour avancer et progresser mettre en place cette règle de priorité.
Ok, bah ça a l'air hyper intéressant. Et puis en t'écoutant, j'ai l'impression que notre vie en société en fait dérègle complètement notre façon de prioriser, tu vois, les différentes actions qu'on peut avoir moi, si tu me dis que j'ai plus de nourriture, j'ai plus d'eau, la première chose que je vais faire, c'est chercher de l'eau, quoi. Mais je pense que c'est marrant d'ailleurs, à quel point on soit déconnecté de tout ça, mais en tout cas ça donne vachement envie en t'écoutant.
Parce que la société dans laquelle on vit nous pousse à se déconnecter de plus en plus à la terre, à ce qu'on est vraiment, tu vois. C'est vraiment une chose importante de pouvoir aller dans la forêt, de rien foutre dans une journée et de s'asseoir sous un arbre et de regarder les feuilles tomber. Mais c'est super important de rien faire. Et à l'heure actuelle, de prendre son temps, c'est un truc de dingue. Les gens dire, attends, tu veux que je prenne mon temps? C'est-à-dire quoi? Je fais rien pendant une journée? Ouais. Mais vraiment rien. Tu touches pas ton téléphone, tu fais vraiment rien. Et là, c'est un truc de dingue. C'est vraiment difficile parce que la société nous demande d'être toujours actifs, de toujours consommer, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça que j'adore me retrouver dans la forêt. J'adore me retrouver au coin du feu. Et mon moment préféré, c'est forcément le soir où on est tous autour du feu en train de parler. On ramène tous un petit peu à manger de nos régions, à discuter. Et on raconte des conneries, et on est autour du feu, et on regarde les étoiles, et c'est juste agréable parce qu'on passe un vrai moment, voilà, entre nous, tu vois, et t'es dans le vrai, t'es vraiment dans l'instant présent, et ça, c'est cool.
Ouais, c'est clair, t'es déconnecté un peu de tout le reste, donc c'est sûr que ça doit être hyper sympa. Je me posais aussi la question de tes projets un petit peu futurs. Tu vois, je suis toujours curieux de découvrir moi l'entrepreneur qui se cache derrière l'athlète, derrière l'aventurier. On en parlait un petit peu juste avant de commencer, mais c'est vrai que il y a une vraie casquette d'entrepreneur et même de chef d'entreprise, tu vois, qui se crée quand tu montes des gros projets comme ça, où il y a de la vidéo, t'accompagnes des gens, tu mets en place plein de choses, et puis il faut aussi trouver des partenaires en vivre, trouver un modèle économique qui soit pertinent. Moi, je me demandais un petit peu, c'est quoi ta vision du futur pour toi? Quels sont les projets que t'as envie de mettre en place de manière, il y a le côté pragmatique, mais aussi, tu vois, la part de rêve, la part un peu de vision de où est-ce que t'as envie d'aller?
Il y a plein de choses qui me passionnent. Je sais que j'aimerais beaucoup poursuivre dans de l'aventure où on a un impact sur l'humain, mais sur la partie mentale, sur comprendre encore plus les mécanismes de l'aspect mental de l'être humain, parce que je trouve que c'est passionnant jusqu'où on peut pousser les choses, tu vois, et pourquoi on le fait, et qu'est-ce que ça vient. Donc c'est plus sur une partie un peu exploration scientifique. Je trouve ça un peu mystique et passionnant. Donc j'aime beaucoup ça, tout en gardant ma casquette de éco-responsable, éco-aventurier, peu importe comment on l'appelle, pour faire passer mes messages, parce que la planète, elle est belle, elle est magnifique, elle est très fragile, et il faut la préserver. Et pour ça, il faut encore et encore, même si on me dit mais ça sert à rien de parler du plastique dans les océans, on le sait. On le sait, mais on n'en parle pas assez. Encore, encore et encore. Et quand vous en aurez marre, eh bien, j'en parlerai encore. Et encore. Parce que justement, ça ne va pas. Parce qu'il y en a toujours. Donc, il faut encore en parler. Il faut continuer à pousser le combat. Et puis après, sur un truc plus pragmatique, eh bien, on va sortir une série là maintenant sur YouTube, sur la survie, avec un côté très décalé avec Valentin. Je suis en train de terminer le livre qui va sortir donc chez Robert Laffont, normalement au début d'année de l'année prochaine, un mix entre du développement personnel et de l'aventure. Je voulais pas que ce soit juste un livre à raconter mes aventures, parce qu'on s'en fout en soi. Il suffit d'aller sur internet et on sait ce que Rémi Camus il a fait, donc voilà, il n'y a pas besoin de recommencer encore une fois. Mais je voulais vraiment que ça soit un livre que tu puisses avoir sur la table de chevet et qui puisse te donner l'envie de te dépasser, l'envie de d'être audacieux, de voilà, de pousser. Donc c'est un mix entre des valeurs qui me sont chères et plein d'anecdotes que j'ai pu mettre, que j'ai pu avoir pendant mes aventures, qui viennent nourrir toutes ces petites voilà, toutes ces valeurs. Donc on est très content d'avancer là-dessus. Et puis là, je pars, tu vois, dans 15 jours, on va s'amuser sur un projet vraiment très. Alors, c'est même pas une aventure, enfin, c'est juste pour moi très drôle. Mais on va descendre la Loire en radeau pour collecter et spotter des déchets. Donc, on travaille avec une ONG qui s'appelle Trash Potter, qui a mis en place une application qui permet de géolocaliser les déchets et de mettre toutes ces datas au service des collectivités pour qu'ils puissent mettre en place les collectes de déchets dans les zones vraiment infectées. Donc on va faire ça sur toute la Loire, essayer de sensibiliser, de faire de la collecte de la géolocalisation sur un côté vraiment très décalé, très humoristique, tu vois, un truc Pirates des Caraïbes avec le ballon Wilson. Donc enfin, c'est vraiment voilà, un peu un truc un peu à la con, mais on est vraiment on veut vraiment essayer de pousser les choses là-dessus. Et après, sur un côté plus perso puis pro, perso, eh bien, je suis en train de monter mon aventure de la traversée Calvi-Monaco à la nage en totale autonomie en août 2022. Donc, je m'entraîne tous les jours, tous les jours.
Tu n'étais pas vacciné avec le Tour de France à la nage, quoi.
Non, c'était pas suffisant, mais je voulais, voilà, je voulais vraiment, tu vois, c'est vraiment une aventure pour pousser sur la partie mentale, de comprendre comment l'être humain, en étant isolé, seul et en faisant un effort physique constant, sans avoir aucune assistance avec toi qui vienne te donner à manger, à boire, en étant vraiment tout seul, en plein milieu de la faute, et te dire, voilà, vache, comment je vais faire ce soir, et je suis tout seul, il y a de la houle, des vagues, etc. Et t'es vraiment face aux éléments, et t'es tout seul, et t'es face à toi-même. Donc, je trouve que c'est, ça va être très intense, parce que c'est plutôt court, ça fait que 170 kilomètres, mais ça va être très intense, ça va faire au moins entre 10 et 15 jours de nage, parce que je suis tout seul, il y a personne pour me faire du ravitaillement, donc ça va être plutôt intéressant sur la partie mentale. Et puis ensuite, ben là, je suis en train de développer plein d'autres expéditions type stage de survie comme l'Australie, je pense qu'on va leur mettre en place pour 2022. Okay. Et puis je suis en train de voir pour mettre en place des trucs sur le Mékong, pareil à la rencontre des autochtones, des villageois, des riverains, et puis pas mal de pêche vraiment en semi-autonomie. Et puis après, j'aimerais beaucoup faire quelque chose en Inde et en Mongolie. Donc on est en train de mettre plein de choses en place, et je suis le confinement n'a pas été quelque chose de mauvais en soi.
Ouais, effectivement, pour les gens, tu sais, qui regardent à long terme et qu'ont des projets, le confinement c'était presque une aubaine, en fait, parce que ça te permet de te reconcentrer sur les choses que tu veux vraiment, ça les décale un peu dans le temps, mais du coup ça permet de les réorganiser et aussi de les réajuster, de retrouver aussi des modèles économiques, mais des modèles d'organisation aussi un peu différents. Donc je veux bien croire que t'as été proactif pendant cette période là mais du coup, je suis curieux de voir un petit peu comment est-ce que tu organises ton temps, parce que tiens, on en parlait au tout début, il y a une journée, c'est incompressible, hein, inétirable et incompressible à la fois. Du coup, comment est-ce que tu fais, toi, pour t'organiser et faire rentrer un petit peu tout ça, ou est-ce que j'imagine que tu as une équipe, ou comment est-ce que tu procèdes pour pouvoir faire tout ça en même temps?
Alors, il y a une équipe, effectivement, sur la com, sur la partie dédiée site internet, etc. Valentin, sur tout ce qui est vidéo de l'autre côté. Une responsable des RP, voilà. Après, moi, je gère la partie organisation, et je dispatche les choses en fonction de ce que je veux mettre en place. J'ai un préparateur mental, un préparateur physique. Donc, ça me permet déjà de pouvoir structurer plus facilement. Et après, les journées sont bizarrement un peu comme monsieur et madame tout le monde, ouais, entre guillemets. Donc le matin, on se réveille, il y a une grosse partie avec du stretching, étirement que je prends en considération le matin, avec un pistolet de massage, un peu de yoga, de méditation. Après, la phase petit déjeuner. Après, vite, on part à l'entraînement. Donc, généralement, c'est soit entraînement à la salle de sport, et puis ensuite entraînement en rivière, en nage. Donc, peu importe ce que c'est, dans tous les cas, la matinée est consacrée pour la partie entraînement sportif et mental, si tu veux, mais c'est vraiment sur la partie entraînement. Et ensuite, l'après-midi, eh bien, c'est on démarche, on monte, on démonte, on fait, on défait, on essaye d'améliorer, on essaye de trouver des partenaires, on essaye d'être pertinent, on essaye de travailler sur sa com, etc. Et donc, on travaille avec les équipes pour pouvoir trouver le meilleur modèle économique pour pouvoir développer les projets. Et ensuite, les week-ends sont consacrés soit en stage de survie pour certains cas, ou alors sur des conférences, etc. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Là-dessus, il faut concilier la vie de famille aussi, tu vois, prendre un peu de temps pour ses proches, pour sa chair et tendre, de se dire bon, voilà, t'inquiète pas, je suis pas très loin, je suis encore là. Enfin, c'est vrai que ça demande du temps et les nuits sont courtes et encore une fois, on coupe dans le temps de sommeil, même si c'est extrêmement important d'y consacrer. Mais ouais, c'est. Je sais que ça soit rythmé et qu'il n'y ait pas de temps mort. Quand ça va pas, tu vois, quand j'ai besoin de souffler, j'arrête, je prends la guitare, je joue un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de guitare, hop, et ça me passe. Et après, je peux revenir, mais j'essaye de pas avoir de temps mort, d'être, tu vois, sur le téléphone à scroller, à regarder des trucs qui servent à rien. J'ai pas le temps. Il faut pas perdre son temps et procrastiner. Et je crois à la pire maladie qui existe à l'heure actuelle, procrastination. Ça, c'est horrible, horrible. Beaucoup de personnes procrastinent malheureusement à vraiment rien faire. Il y a vraiment le terme rien faire et ne vraiment rien faire, et ça, c'est bon. Mais juste procrastiner et de perdre son temps, c'est pas forcément la meilleure chose.
Ouais, peut-être en occupant son esprit sans avancer et construire quelque chose de quelque chose qui nous est cher, quoi, quelque chose qui a de la valeur à nos yeux. C'est vrai que je suis assez d'accord là-dessus, ouais. Et je me posais la question, peut-être, alors dis-moi si la question elle dérange, mais tu vois, pour avoir lu un peu quelques récits d'explorateurs, pour en avoir interviewé certains et tout, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres modèles trop possibles, tu vois, hormis effectivement avoir vraiment des partenaires financiers qui puissent t'accompagner sur une expédition. Justement, tu vois, toi, avec ton approche sur les stages, avec en essayant d'avoir une vision un peu différente. Et puis j'ai vu aussi que tu travaillais avec une chaîne de télé aussi. Tu penses que, tu vois, il y a un autre futur possible, tu vois, pour l'expédition, l'exploration. Permettent justement de se développer, parce que tu vois, j'ai l'impression que tu testes beaucoup de choses et que tu fais partie justement à l'intérieur de, parmi ces explorateurs, tu fais partie d'un, t'es un explorateur qui explore l'exploration, j'ai l'impression, et tu testes énormément de choses et ça se sent et tu vas toujours droit au but. Du coup, ouais, ma question elle est un peu large, tu vois, mais c'est est-ce que il y a d'autres, tu vois, il y a un autre monde possible, tu vois, pour ce milieu-là.
On restera forcément dans du sponsoring, du partenariat, du mécénat, parce que les expéditions sont de plus en plus coûteuses en fonction de ce que tu veux mettre en place, etc. Mais moi, je parle pas de sponsoring ni de partenariat, et je parle très souvent d'expérience client, en fait. Moi, mes partenaires, je veux que ça soit presque des potes, tu vois, avec qui je vais boire une bonne bouteille d'eau rouge avant de parler business, tu vois. C'est des gens avec qui on a une vraie expérience client, de dire venez faire Calvi Monaco, nager. Non, venez sur le bateau de sécurité qui sera à côté. Venez à Monaco, venez à l'arrivée, venez chialer avec moi. Je fais venez vivre le truc, que ça soit pas juste je donne de l'argent et ça s'arrête là. Et en fait, c'est ce que j'essaye de mettre en place, c'est vraiment de l'expérience client, que les gens puissent vivre le truc. Que ça soit pas on donne de l'argent et on valorise l'action de Rémi, ou peu importe quel aventurier ou explorateur, on s'en fout, mais de valoriser dans l'entreprise, de dire regardez mes chers collaborateurs, notre entreprise soutient telle personne, et voilà. Je veux aller vraiment au-delà de ça et mettre en place soit des stages de survie, de les emmener, venez on part 2 jours, venez on va partir 2 jours et on va avec toute votre équipe, venez, on va dans la forêt, venez, on va en profiter, venez, qu'ils puissent voir ce que c'est, sentir un peu ce que c'est d'être au milieu de nulle part, dans des conditions un peu rudes. Et c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus, notamment avec mes partenaires, que ça soit un vrai échange et pas juste un contrat, tu vois, bien bordé avec des sommes et des zéros et des vous devez faire ci, ça en face du contrat. C'est vraiment, j'essaye de pousser sur de l'expérience client.
Ok. Et est-ce que c'est indiscret de demander qu'est-ce que eux ils attendent, tu vois, de quelque chose comme ça? Est-ce que effectivement c'est pour le valoriser auprès de collaborateurs? Est-ce que c'est pour il y a une partie peut-être de fiscalisation? J'en sais rien. Est-ce qu'il y en a qui, tu vois, on le voit beaucoup. Je sais peut-être chez les athlètes de haut niveau, ils vont chercher beaucoup de contenu. Tu vois, la création de contenu, une image de marque et tout. C'est quoi? C'est un peu de tout ça. Ouais.
T'as raison, c'est ça. C'est un mélange de tous ces petits trucs-là. C'est de la valorisation à travers une image, à travers ce que tu renvoies. J'ai des partenaires. Tu vois, je suis pas quelqu'un. Enfin, je suis rien du tout. Rémi Camus, 10 000 followers sur les réseaux sociaux, enfin, c'est rien. On s'en fout complètement. Hein. Mais pour moi, c'est pas le nombre de followers qui fait la qualité de la personne. Et derrière, en fait, ce que les gens essayent de rechercher, c'est vraiment ce capital sympathie, le fait de partager, d'avoir des valeurs qui coïncident avec les valeurs de la société, avec le DG, avec le PDG, avec l'équipe en général. Ça peut être sur de l'image, ça peut être sur de la valorisation des produits à travers de la vidéo. Donc c'est vraiment un mix. Chaque personne et chaque entité a vraiment des demandes un peu particulières, même si ça se rejoint très souvent. Mais ce que j'apporte, moi, c'est vraiment, je leur dis, on signe, mais on signe que s'il y a vraiment cet échange et que ça soit vraiment valorisé à travers une expérience client. C'est-à-dire que si moi, je deviens votre ambassadeur ou on est partenaire, mais venez dans la forêt, venez, si, venez boire une bière dans la forêt. Enfin, voilà, venez un peu faire, venez marcher, venez en chier un petit peu, ça va vous faire du bien. Et en fait, c'est ça que j'ai besoin parce que, ça permet vraiment de créer ce qu'on appelle un vrai partenariat. C'est vraiment ça. C'est de vraiment avoir un vrai partenariat qui soit sensé, où tout le monde est vraiment content parce que ça fait avancer les deux côtés en même temps. C'est-à-dire que moi, ça me fait grandir parce que vous m'aidez financièrement sur de l'équipement, etc. Mais moi, ma prestation, entre guillemets, vous permet également de faire évoluer certaines choses dans votre société au sein de vos collaborateurs. Et c'est pour moi important.
Ouais, ok. Bon, en tout cas, j'aime bien ton approche, effectivement, qui est déjà très respectueuse et aussi qui est très, je sais pas comment dire, mais très humaine, tu vois, du sponsoring. Et peut-être que t'as un discours qu'on n'entend pas toujours, tu vois, effectivement, et t'as l'air presque d'y prendre du plaisir, tu vois, dans cette relation humaine, et je pense que c'est sincère. Là où effectivement peut-être que chez tout le monde c'est pas aussi aussi fluide et aussi limpide. J'avais encore une ou deux questions là avant que je te laisse. C'est vrai qu'on est bavards tous les deux, on pourrait enchaîner, mais moi je me demande, est-ce que y a encore des choses qui te font peur dans la vie? Tu vois, t'as eu des situations qui sont tellement fortes. T'as parlé tout à l'heure de situations humaines, mais est-ce que au plus profond de toi, t'as des craintes, t'as des peurs?
J'avais peur au tout début, tu vois, de certains animaux peut-être. Moi, j'ai toujours eu une crainte, et la seule crainte que j'ai, moi, c'est le nombre. C'est complètement bizarre, mais pas le chiffre, hein, mais le nombre. Une fourmi, bon, mais des fourmis. Tu vois, t'en tues 10, t'en as 10 000 qui arrivent. Et en fait, tu sais que c'est une bataille qui est perdue d'avance. Tu vas avoir un moustique, tu vas avoir des moustiques, tu vas avoir une mouche, tu vas avoir des mouches. En Australie, les mouches, tu t'imagines même pas comme ça te prend la tête et comme ça te plombe ton moral. Et en fait, toi, physiquement, ça va rien te faire, tu vois, mais c'est juste, mais ça prend la tête. Et c'est là-dessus où, à chaque fois, les gens, je veux les emmener, c'est que vous soyez fort physiquement, c'est une chose, et que vous soyez fort mentalement, c'est pour moi très important, parce que vous allez voir, en Australie, les petites bêtes sont les plus chiantes. Et quand vous allez avoir 200 mouches qui vous tournent autour de la tronche de 7 heures du matin à 19 heures le soir, Mais tu te dis, c'est pas possible, il n'y a pas de RTT, là, vous travaillez tout le temps, là. Ça travaille tout le temps, ça s'arrête jamais. Et tu te dis, mais c'est un truc de ouf. Et en fait, c'est ça qui m'a toujours le plus surpris, tu vois. Tu te retrouves, ça m'est jamais arrivé, tu vois, mais de me retrouver devant un lion, etc. Enfin, tu vois, c'est un face-à-face, c'est pas la même chose, tu vois. Le danger, il est devant toi et tu le vois. Mais quand ça vient de partout, en nombre, c'est ça qui est assez dérangeant et perturbant. Et après, au fil des années et des expéditions et des explorations que j'ai faites, j'ai appris à comprendre comment fonctionnaient les animaux et leurs besoins vitaux. Et tu te rends vite compte que la plupart du temps, les animaux sont beaucoup plus craintifs et fuient l'homme rapidement. T'es pas encore arrivé qu'il y a plus personne, ils t'ont déjà senti. Donc la plupart du temps, ils fuient l'homme. Et c'est pas les animaux, voilà, qui me chagrinent le plus. Ça reste encore une fois le contact avec l'humain, parce que tu sais pas jusqu'où il est capable d'aller. C'est ça qui me fait peur. Si t'es tout seul, tu vois, c'est une certaine chose, mais quand t'es avec tout un groupe, c'est perturbant, parce que tu sais pas ce qui peut se passer et surtout comment ça peut se terminer.
Ok, ça marche. Il y a une question que j'adore poser aux invités, c'est de savoir si tu pouvais être une petite souris, tu vois, et te donner un conseil à ton toi-même qui vient de lire ce super bouquin et qui décide de se lancer dans ce projet de la traversée de l'Australie. Qu'est-ce que le Rémi de l'époque, il aurait eu besoin de savoir?
Alors, c'est pas qu'est-ce qu'il aurait eu besoin de savoir, mais je lui aurais dit simplement, vas-y mon pote, tu vas kiffer. Vas-y. Mais fais-le exactement comme tu le penses, parce que tu vois, j'ai regardé les questions. Tu envoies un petit dossier à préparer, parce que tu dis qu'un podcast extraterrien ne se fait pas à l'arrache, ça se prépare. Et j'ai lu tes questions, tu vois.
C'est comme tout dans la vie, hein. C'est comme tout.
Exactement,
dans la vie,
c'est comme bien sûr. Mais tu vois, j'ai mes petits trucs, j'ai tout noté, tous les trucs au cas où que tu aies une question en particulier à me poser. Voilà, j'avais noté plein de choses. Et il y a une question que tu as posée, que tu avais écrite, c'était est-ce que tu regrettes quelque chose ? Et j'ai tourné le truc dans tous les sens. Et toi, j'ai lu ton dossier, je l'ai lu il y a deux jours, un truc comme ça. Et puis je l'ai relu encore tout à l'heure. Et puis je suis putain mec. Et j'arrive pas. Et en fait, j'ai pas de regrets, parce que les erreurs que j'ai faites pour faire ma première aventure, puis ma deuxième, puis comment ça s'est enchaîné, Ben c'est parce que ça devait se faire comme ça, quoi. C'est parce que il y avait pas d'autre choix. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être 100 fois pire. J'aurais pu être ne pas être là aujourd'hui. J'aurais pu être soit mort enseveli dans un barrage hydroélectrique au fin fond du Mékong. J'aurais pu me faire mordre par un serpent en Australie. J'aurais pu être aspiré sous une vague pendant le Tour de France à la nage. Et je suis là. Donc je regrette pas tout ce que j'ai fait. Et j'ai pas de super conseils à dire au Rémi de quand il avait 20 ans, quand il avait 21 ans, quand tu vois, je me rappelle d'une phrase de ma prof qui disait la restauration mène à tout. Putain, mais quand elle m'a sorti ça, je l'ai gardé en tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Elle me dit ça comme ça, je comprends rien moi. Et c'est au fil des années, quand tu commences à travailler, à te rendre compte et à explorer autre chose, je dis ouais, c'est vrai. La restauration mène à tout. Parce que je suis parti avec un bac technologique en restauration pour être maître d'hôtel et pour maintenant être aventurier explorateur. Et j'ai pas de regrets, j'ai pas de, tu vois, de me dire j'aurais peut-être dû faire comme ci, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Je trouve que c'est juste bien tracé et faut juste le kiffer à mort et de se dire eh bien les petites erreurs que t'as fait dans le passé, eh bien, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a permis d'aller jusque là.
Ok. Bon bah écoute, j'aime bien la réponse. J'aime bien la réponse en tout cas. T'as bien fait, tu vois, de passer quelques minutes sur ces petites questions. Ça amène aussi des fois à des bonnes réflexions et c'est aussi ça qui est intéressant. Mais et merci d'avoir joué le jeu, d'avoir préparé avec autant d'assiduité. C'est pas le cas.
C'était intéressant. Je trouvais les questions sympas, donc j'avais tout noté, tu vois, tous les petits trucs intéressants qu'on aurait pu aborder.
Faudrait que je précise dans mon petit mail que c'est pas obligé de tout préparer avec autant d'assiduité,
obligé, mais c'est tellement intéressant parce que ça te permet de te mettre dedans et te dire, ah, ok, il y a ça et peut-être comme si, et je trouve que c'est intéressant. Donc, à préparer, c'est sûr, et il faut le faire parce que c'est comme ça que je le vois.
Ok, ça marche. Bon bah du coup j'en profite, je t'en pose quelques-unes en plus.
Vas-y, vas-y.
Mais moi je me demande où est-ce que tu te vois dans 10 ans. Tiens, j'ai curieux de savoir. Et même au-delà de ça, tu vois, j'avais une nouvelle question, mais celle-là je l'envoie pas. Ouais. Mais si je sais pas dans 100 ans, tu voulais que les gens se souviennent d'un truc. Tu vois, ils pensent à un mot quand tu leur dis Rému Camus. T'aurais envie que ce soit quoi ce mot?
Que c'était un, alors c'est pas assez con ça. Ça va être chaud.
C'est pas un mot, c'est dans la phrase.
Non, mais c'est pas un mot, mais c'est une phrase. C'est-à-dire, c'était un mec qui était cool et qui faisait des choses pour les partager. Et c'est vraiment un truc qui m'anime énormément. C'est vraiment partager, tu vois, avec les gens, avec les enfants, autour d'un feu. Et c'est ce que je trouve super kiffant. Je pense que je serais triste si j'étais le seul humain sur Terre. Je serais vraiment très triste parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de rire. Je suis quelqu'un, je raconte conneries sur conneries. Je suis tout le temps en train de rigoler, en train de raconter des conneries parce que j'adore ça, parce que j'aime bien que les gens rient, parce que j'aime bien aller voir les gens se lâcher et j'aime bien parler, j'aime bien partager. Donc je pense que c'est ça. Ouais, j'aimerais bien que les gens se souviennent de moi, que c'était un mec. Qui rigolait bien, qui s'amusait bien, qui aimait la vie et qui aimait la partager.
Bon, ok. Bon, bah, t'es cool, tu vois. Comme quoi, faut aussi savoir sortir du script. c'est possible, ça marche bien.
Ah, complètement.
Ouais. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que, je sais pas, dans les réponses que t'avais préparées, du coup, il y en avait une qui t'inspirait, qui t'avait bien inspiré ou qui...
Non, après, il y a des trucs super sympas. Tu avais posé, quelle serait la personne que tu aimerais voir sur un prochain podcast? J'aimerais beaucoup entendre Jamel Bali.
Ok.
Ouais, j'aimerais beaucoup entendre Jamel Bali.
Tu l'as rencontré?
Je l'ai jamais rencontré. Je kifferais de pouvoir le rencontrer. On a échangé quelques fois par mail, mais j'ai jamais eu l'occasion encore de le rencontrer. Donc, j'aimerais beaucoup l'entendre en podcast. Ça serait génial. Et après, je me rappelle, tu me disais, est-ce qu'il y a un livre ou un film qui te passionne? Et forcément, le livre de Jamel Bali, parce qu'il m'avait transporté lorsque je l'ai lu. Et le film que je trouve fantastique, le film vraiment qui porte et qui a tellement de messages, pour moi c'est Forrest Gump, qui est un film extraordinaire, qui est juste énormissime sur le jeu de l'acteur et tout. Je trouve qu'il y a tellement de beaux messages à travers ce film que voilà, c'est un truc que je surkiffe, de se dire un jour t'es assis et tu te lèves et parce que t'en as décidé, tu pars courir. Et je trouvais ça trop bien, tu vois, le mec qui court et à un moment donné il s'arrête et pourquoi tu t'arrêtes? Parce que je veux rentrer à la maison. Et je trouve qu'il y a plein de messages qui sont magnifiques dans ce film et je suis persuadé que tous les personnes qui écouteront le podcast ont forcément déjà vu Forrest Gump, mais regardez-le encore une fois. Regardez-le. Asseyez-vous avec une petite boîte de chocolat et mangez les chocolats. Vous allez voir, c'est vraiment passionnant.
Ça marche. Tu l'as vu combien de fois, toi? Parce que c'est vrai que...
Un peu trop souvent, mais...
Ouais, bah écoute, tiens, tu m'as donné envie de le revoir. C'est vrai que ça fait un bail que je l'ai pas vu et Dieu sait à quel point je suis fan de ce film aussi. Tom Hanks, qui est absolument fantastique, tu vois, jouer ce rôle-là, je pense que personne n'aurait pu le jouer aussi bien que lui, donc...
Exactement.
Donc, exactement. Écoute, il était merveilleux. J'ai passé un super moment, Rémi, donc merci infiniment. On a pu rigoler, on a pu parler aussi de choses hyper profondes et hyper sérieuses, et même de se mettre un petit peu dans les coulisses de ton organisation, ton futur, et de comment ça s'organise une expé. Donc c'est merci infiniment de nous avoir partagé tout ce savoir et aussi toutes ces choses aussi concrètes et aussi fortes. Donc j'espère que toi aussi t'as passé un bon moment.
Ouais,
que tu t'es régalé. Où est-ce qu'on envoie un peu les auditeurs? Où est-ce qu'on leur dit d'aller
où ils veulent, enfin tous les réseaux sociaux, ouais, sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur TikTok, sur ce qu'ils veulent. tous les liens sont possibles.
Ok, bon bah Rémi, présent partout. En tout cas, moi, je recommande fortement d'aller jeter un coup d'œil sur ton YouTube et toutes les vidéos que tu as produites. Ça donne vraiment envie. Et les petites phrases aussi que tu partages sur Instagram avec les posts, ça met ça met la banane dès le matin et ça donne envie. Donc moi je les redirige vers ici. Voilà, c'est mon petit coup de cœur à moi. Merci encore et écoute, je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à très bientôt. Je vais suivre ça de près et puis peut-être que tu me verras sur un de tes stages prochainement. Correspond avec mes dates, je fonce.
Il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir de t'accueillir en tout cas. Merci en tout cas pour avoir pris ce temps d'échanger avec moi.
Avec plaisir. Ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.